Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour, c'est l'heure de la grande chat, le rendez-vous politique du journal Le Ravi en partenariat avec Radio Grenouille. Bonjour Michel Guéraud.
Bonjour Rafi Hamann.
Avec nous pour cette nouvelle émission de rentrée pour une nouvelle année, Benoît Payan, président du groupe socialiste au conseil municipal de Marseille, également conseiller général. Je crois qu'on a changé de nom, on ne dit plus conseiller général.
Départemental.
Bonjour Benoît Payan.
Bonjour Rafi Hamann.
Alors on va parler socialisme, refondation du Parti Socialiste, on va également parler gouvernement Macron, mais auparavant une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité, et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
À mensuel, pas pareil, émission, pas pareil. Car, qui invitons-nous pour la grande tchatche de cette rentrée sociale et politique? Benoît Payan, le président du groupe socialiste au conseil municipal marseillais. Vous avez bien entendu, socialiste. Oui, oui. Un socialiste. Pour nos jeunes auditeurs, un rappel historique. Dans des temps fort, fort lointains, bien avant l'an zéro de l'ère Macron, existait un parti nommé socialiste. Il permit même de sacrer deux présidents sous la Ve République. Partout en France, il avait de nombreux élus. Marseille et son département ne firent pas exception, avec des noms qui fleurent bon le temps jadis. Guérini, Vauzel, Menucci, Carlotti, Caselli, Mas, Gibrayel. Mais tous furent frappés d'un mal étrange qui entraîna leur disparition. Les politologues s'interrogent encore sur les causes de cette hécatombe. Météorite, macronite, mélanchonite, tous? Non! Car un irréductible socialiste phocéen résiste encore et toujours à la bérésina, Benoît Payan. Vous abreuvez les journalistes de communiqués de presse, vous affrontez dans l'assemblée municipale l'armada des légionnaires de l'inamovible empereur Gaudin. Vous arpentez, mégaphone à la main, les rassemblements regroupant les mutins de la corderie à la plaine. Avec Macron, vous avez un point commun, 39 ans, l'âge. Mais vous avez déjà collectionné bien plus de mandats que Jupiter. Tour à tour, conseiller communautaire dès vos 29 ans, conseiller général, maintenant départemental, conseiller municipal en 2014. Et depuis 2016, vous présidez le groupe municipal PS à Marseille. Socialiste, vous l'êtes depuis vos 20 ans, époque où la gauche plurielle est au pouvoir avec Jospin, il y a fort fort longtemps. Dans votre famille marseillaise, avec un père artisan, menuisier et une mère agent de l'URSSAF, on a toujours aimé parler politique. Vous attrapez le virus au point d'apparaître, oui j'insiste, d'apparaître lors de vos études de notaire comme un véritable révolutionnaire. Ce sont les années MJS dont vous serez un temps secrétaire national. Oubliez le notariat, bonjour les péripéties des campagnes électorales, les aventures au conseil régional, période Vauzel, au conseil général, période Guérini, ou auprès de la ministre Carlotti. Lors de la présidentielle, vous avez été l'un des rares à soutenir, sans rechigner, le soldat Hamon lâché par ses troupes. Mais pas au point de claquer la porte, comme lui, de la vieille maison. Qu'en reste-t-il de cette vieille maison à l'heure où Solferino est en vente pour éponger les dettes après les déroutes électorales? Une excellente question pour alimenter de très très nombreuses motions d'ici un fort 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 lointain congrès de refondation.
Benoît Payan, une réaction à ce portrait à la sauce ravie?
Non, c'est plutôt juste, c'est plein d'humour, c'est plein d'intelligence et puis c'est tout à fait vrai. Moi j'aime bien quand le temps est libre et que les choses sont plutôt collent plutôt avec la réalité et donc... Moi, ça me fait toujours plaisir de voir qu'on peut prendre du temps dans une émission et que ça peut commencer comme ça. C'est plutôt pas mal.
Alors, entrant tout de suite dans le vif du sujet, il y a quelques jours de ça, voici ce que déclarait Jean-Luc Mélenchon dans le journal La Provence. Le PS est aujourd'hui le seul zoo de France où les animaux se gardent entre eux. La vieille gauche est à bout de souffle. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes une espèce en voie de disparition, Benoît Payan?
Moi, je trouve que tout ce qui est excessif est dérisoire et j'ai trop de respect pour Jean-Luc Mélenchon pour lui répondre... violemment, même s'il a été lui-même gardien de ce zoo, il a été pendant très longtemps sénateur socialiste, ministre socialiste, élu socialiste, il est lui-même issu de cette famille socialiste. Il a été en rupture avec le Parti Socialiste, avec de très bonnes raisons pour lui d'être en rupture avec le Parti Socialiste. Il a fait un autre choix. Il se trouve maintenant dans une position qui devrait l'amener à prendre une hauteur de vue et de propos qui l'honoreraient plus que ce genre de coup de menton, ou comment dirais-je, d'aigreur ou d'acrimonie à l'égard du Parti Socialiste. Il faut que le temps passe, voilà, cette élection présidentielle, elle est perdue, il y a d'autres combats devant lui, et moi je l'engage à rassembler plutôt qu'à diviser.
Michel?
Alors en même temps, 289 députés, aujourd'hui plus que 29 socialistes à l'Assemblée nationale, donc il s'est quand même passé quelque chose, et puis là, à l'heure où cette émission est diffusée, samedi, Mélenchon lui prend la Bastille, mais enfin il y a un mouvement social... et on n'entend pas trop quand même objectivement les socialistes. On ne sait pas très bien s'ils s'opposent et comment ils s'opposent. Il y a peut-être quand même un souci là depuis...
Non, mais il faut qu'on soit objectif. Le Parti Socialiste, les partis sociodémocrates en Europe sont en train de traverser des crises d'une violence absolument inouïe. Je pense que cette crise de la social-démocratie, elle vient du fait qu'on n'ait pas compris ce que ça voulait dire être socialiste au pouvoir. Et qu'on a cru qu'en accompagnant les transitions économiques ou l'économie de marché, en essayant de réguler le capitalisme de la manière la plus humaine possible, on théoriserait ce qu'est le socialisme.
Pour vous, gouverner, socialisme... gouverner, c'est trahir forcément quand
on
est socialiste.
Non, justement, il faut y réfléchir à ce que ça veut dire gouverner. Parce qu'à partir du moment où on ne réfléchit pas à l'exercice du pouvoir, on ne peut pas être un socialiste qui défend une idée, une doctrine, une théorie de transformation sociale en arrivant au pouvoir en disant bon, on ne peut pas faire grand-chose, mais c'est vrai qu'on va essayer d'atténuer les méfaits d'une mondialisation qui broie tout sur son passage. Quand on fait ça, forcément, il y a la tentation de considérer que le socialisme trahit. Et il n'y a qu'à regarder l'exercice du pouvoir et il n'y a qu'à regarder les résultats pour comprendre qu'on n'a pas saisi ce que ça voulait dire d'être au pouvoir. Pendant 5 ans, on a fait des choses bien et puis des choses beaucoup moins bien. Parce qu'on n'a jamais compris ce qu'on devait faire au pouvoir. Et c'est vrai pour les socialistes français, mais c'est vrai aussi pour le PSOE en Espagne, pour le PASOK en Grèce, c'est vrai en Autriche, c'est vrai dans les pays scandinaves. Parce que les partis socialistes n'ont pas compris qu'il ne suffisait pas d'accompagner le monde tel qu'il est, mais qu'il fallait essayer de penser à demain. On ne réfléchit plus à rien.
Aujourd'hui, on peut dire que vous avez perdu la bataille idéologique.
On ne l'a plus menée. C'est même pas qu'on l'a perdue. Si encore on l'avait perdue, ça voudrait au moins dire, Rafi Amal, qu'on a mené la bataille culturelle. Mais depuis quand est-ce qu'on n'a pas mené une bataille d'idées? C'est quoi la dernière idée des socialistes? Une vraie grande idée. Qu'est-ce qu'on a amené? On a vécu sur notre histoire et sur nos acquis. Elle est très belle, hein? C'est-à-dire, c'est la République, c'est 1905, c'est la laïcité, c'est le Front populaire, c'est le Conseil national de la Résistance, c'est 81. Ça, c'était des batailles culturelles.
Et puis on s'est arrêté. Pour reprendre les propos de Macron, on peut vous qualifier de feignant du PS?
Et puis,
de feignantisme au PS?
Oui, il y a eu une forme d'abdication du Parti socialiste quant au travail intellectuel qu'il devait mener. Il y a eu une forme d'abdication du socialisme quant au travail idéologique et culturel qu'il devait mener. Vous savez, Gramsci, qui a été un des penseurs du socialisme, pas du Parti socialiste, mais du socialisme italien, dans ses cahiers de prison, a théorisé ce que devait être la bataille culturelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne mène pas de combat politique et idéologique, on ne peut pas transformer la société et on ne peut pas durablement gagner les élections. Pas gagner les élections pour gagner les élections, gagner les élections pour s'installer au pouvoir et transformer la société. Le parti, ça fait tellement longtemps qu'il ne fait plus ça. Enfin, il suffit de regarder ce qu'on a raconté aux élections présidentielles de 2002, de 2007, de 2012, pour voir qu'on n'a jamais plus proposé un projet de société. 81, j'étais bébé, c'est très très loin.
Bon, non, pas dire, il y a un groupe insoumis qui s'oppose, il y a un groupe PC qui s'oppose, il y a un groupe républicain qui s'oppose à l'Assemblée nationale, et puis il y a un groupe socialiste, on ne sait pas ce qu'ils font. Est-ce que vous pensez que, comme il existe un groupe LR constructif, il faut regarder, laisser avancer Macron, et
non.
Puis au cas par
non.
cas, dire oui, non, ou est-ce qu'il faut, dès maintenant, est-ce qu'il est possible de tenir... De s'exprimer, de prendre position par rapport, notamment, au premier projet de loi, défendu par ce gouvernement.
Non, mais
la loi travail, notamment.
Dans votre portrait, vous avez dit, très justement, que j'avais soutenu Benoît Hamon. Je l'ai soutenu dès le début de la primaire. Dès que Benoît a dit « je suis candidat à l'élection présidentielle », à la primaire, je l'ai soutenu. Non pas parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, non pas parce que je le trouve sympathique, mais parce que je considère qu'il est celui qui a la vision la plus juste de la société, du monde tel qu'il vient, qui a la vision la plus juste du socialisme.
Mais il n'est plus socialiste.
Il est toujours socialiste, il n'est plus au Parti Socialiste, ça c'est encore autre chose, on en parlera si vous voulez. Je l'ai fait parce que j'avais la conviction profonde. Je ne savais pas où ça allait aller, hein. Benoît, au début on lui disait il va faire 5%, il va se casser la gueule. C'est pas très grave parce que je considérais qu'il portait en lui les germes de la transformation de la gauche et du Parti Socialiste. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pas de souci vis-à-vis de ce qu'on doit faire par rapport à Emmanuel Macron. On ne peut pas transiger avec Emmanuel Macron. On ne peut pas être bienveillant en disant on verra bien au cas par cas. Moi, je considère que, un, on devait s'opposer à Emmanuel Macron. Deux, on ne devait pas voter. On ne doit pas voter la confiance à son gouvernement. Et évidemment, sur la loi travail, on doit être clair. Tout à l'heure, Rafi Amal posait une question très juste, c'est-à-dire vous êtes perdu, vous êtes dilué parce que vous n'êtes pas clair. Ben ça fait partie des problèmes majeurs et spécifiques du Parti Socialiste. Il ne peut pas y avoir dans ce parti des gens qui, face à Emmanuel Macron, face à la loi travail qui est quand même portée, quand même, par une majorité de LR dans le gouvernement Macron, de socialistes qui tergiversent. Mais comment, quand on est socialiste, peut-on avoir ne serait-ce qu'une seconde un doute sur le fait qu'il faille ne pas défendre le Code du travail ? Le Code du travail, il est issu de luttes sociales, il est issu d'une conception même de la société. Le Code du travail, c'est pas fait pour emmerder les patrons. C'est fait pour vivre en société, c'est fait pour protéger les salariés, c'est fait pour que, justement, y compris quand on est patron, on devrait comprendre que quand on a un salarié qui est protégé par un code du travail intelligent, ce salarié il est plus productif, il se sent mieux dans son travail, il se sent plus protégé, et ça amène à la société, dans son ensemble, et donc à l'entreprise, quelque chose de bénéfique. Le problème, c'est que cette bataille culturelle, par exemple, on ne l'amène plus.
On reviendra dans les détails. Michel Guérin.
Beaucoup soulignent la continuité qu'il y a entre la loi El Khomri, défendue par le Parti Socialiste et un gouvernement socialiste, et cette loi Travail Macron. Il y a une continuité.
Bien évidemment.
Alors comment ce parti socialiste, votre parti aujourd'hui, se positionne vis-à-vis de cette continuité ? C'est-à-dire que...
C'est une exagération de la loi El Khomri. Mais la loi El Khomri, regardez. Est-ce que vous imaginez une seule seconde qu'on est allé aux élections en 2012 en disant on va faire la déchéance de nationalité et la loi El Khomri ? Tout ça, ça n'était ni dans notre ADN politique, ni dans notre programme. L'arrivée d'Emmanuel Valls à Matignon a tout bouleversé, a bouleversé le champ politique. Emmanuel Valls a considéré qu'il fallait faire table rase du passé et de notre identité en amenant sur la table... à coups de menton, de marche forcée et de trique les députés socialistes en leur disant la modernisation du pays, c'est ça. La loi El Khomri, c'est le renouveau du Parti Socialiste. Nous sommes des modernes, nous aimons l'entreprise et il faut modifier tout ça parce que on voit avec des yeux clairs et ouverts ce qu'est le monde. On voit bien où ça nous mène. On voit bien qu'à partir du moment où il y a non pas une trahison de l'histoire, mais à partir du moment où on travestit l'idée même qu'on se fait de ce que doit être le code du travail, de ce que doit être la protection des salariés, à partir du moment où ce travestissement est mis sur la table, il y a une perte de confiance entre les électeurs, les citoyens et ceux qui sont censés les représenter, notamment les socialistes. Donc en effet, on pourrait considérer que la loi Macron, c'est une loi El Khomri XXL. Ça l'est. Et donc, on continue tout simplement à aller vers l'abysse, vers l'abîme de ce que nous ne devrions pas accepter. Donc, c'est pas moi qui me suis opposé à la loi El Khomri qui vais vous raconter qu'il faut être, comment dirais-je, transigeant ou bienveillant avec la loi Macron. Enfin,
à l'époque de la loi El Khomri, donc les socialistes l'a proposé au gouvernement, vous vous y êtes opposé, Mélenchon s'y est opposé avec beaucoup plus de watts que vous.
Tout à fait la même organe vocal.
Est-ce que Mélenchon est en train de nettoyer, il continue de nettoyer le champ politique à gauche ?
En tout cas, il est en train de refonder, je sais pas si on a du temps pour parler, je crois que oui. Il essaie de refonder le champ politique. Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire, Mélenchon ? Mélenchon, on voit bien d'ailleurs sa transformation, sa transmutation entre 2012 et 2017. Et on voit qu'il a évolué dans le champ politique, dans le champ sémantique et dans le champ c'est pas très laïque ce que je vais vous dire, dans la théologie politique, la théorie politique. Il est en train de passer d'un prisme et d'une ventilation droite-gauche à une ventilation et à un prisme politique populisme-oligarchie. Et il théorise le populisme démocratique en disant finalement « La gauche a trahi, je ne peux plus me revendiquer de ce qu'est la gauche. J'ai envie d'inverser les paradigmes et de donner beaucoup plus de verticalité à la relation entre le peuple et le politique. Je ne suis, moi, Jean-Luc Mélenchon, non pas un César, je ne suis que l'instrument du peuple. Et un homme politique doit se faire l'instrument du peuple. Et non pas le représentant de couches intermédiaires, etc. etc. » Vous m'aviez dit qu'on avait du temps.
Oui, mais bon,
Ou vous me laissez du temps.
Aujourd'hui, Benoît Payan, c'est le principal opposant.
C'est intéressant.
C'est le principal.
On parle de Mélenchon et c'est intéressant. C'est le principal opposant. Mais si vous voulez, on fait des
alors,
coups,
peuple,
choses. Oui,
peuple,
en effet.
C'est une bonne
en effet,
idée de se référer au peuple pour.
En effet. Mais en tout cas, c'est très. Oui, c'est important de le faire. Bien sûr que c'est important de le faire. Essayer de le comprendre. Non pas pour transformer le peuple ou créer le peuple comme il le dit, parce que je pense qu'il se trompe historiquement, idéologiquement et politiquement. Il fait une erreur. Je suis persuadé qu'il fait une erreur, y compris philosophique. Néanmoins, il faut essayer de conscientiser le peuple, et c'est extrêmement important quand on fait de la politique de mener cette bataille culturelle, et c'est bien parce qu'il le fait, et il le fait plutôt pas mal, et il n'y a qu'à voir le mutisme des socialistes pour comprendre qu'il a le champ libre.
Mais alors revenons au PS, justement, Mélenchon qui dit le PS ne se relèvera pas car il est toujours tétanisé par les mêmes ambiguïtés. Est-ce que vous pensez que le PS peut sortir de ça ? Il n'y a pas très longtemps, il y avait une visite à Marseille de Luc Carvounas, Nouvelle Gauche, un député du Val-de-Marne, un ancien valliste qui était partisans de la loi El Khomri qui aujourd'hui s'opposent à leur travail. Comment tout ça peut être crédible?
Vous voyez, ça nous donne déjà beaucoup de foi en l'humanité, ce qui veut donc dire que ce qui est fait peut se défaire et qu'on peut évoluer. Je ne suis pas partisan de Luc Carvounas, donc je n'ai pas de problème.
Le PS, en gros, c'est 50-50. Il y a 50% des gens qui sont sur votre ligne, 50% qui sont sur une autre ligne. Comment on peut faire cohabiter tous ces gens et faire...
La question, c'est pas ça. Enfin, excusez-moi. La question, c'est la question de la clarification. Je ne suis pas capable de dire s'il y en a 50% d'un côté, 50% de l'autre. La question, c'est la clarification. Aujourd'hui, Carvounas, qui a été partisan de Manuel Valls, est allé aux élections. Il s'est d'ailleurs aperçu à quel point c'était compliqué d'avoir les yeux fermés pendant 5 ans et de considérer qu'on avait raison contre tout le monde. Et il a failli se casser la gueule aux élections. Et lui-même se rend compte qu'à force de travestir la ligne, à force de ne plus être socialiste et de ne plus porter notre identité socialiste, on va dans le mur. Donc c'est bien, il a compris. Tant mieux. Tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. Plus on arrive à convaincre de gens que ça n'était pas la bonne ligne, plus on sera majoritaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut essayer de faire? Alors, après, l'histoire du socialisme, elle est longue. C'est aussi une histoire de synthèse au sens noble du terme. Le Parti Socialiste, la gauche, elle est au pouvoir quand elle fait la synthèse entre les formes les plus radicales de ses membres et les plus réformatrices. Enfin, ça, c'est très compliqué à faire.
La synthèse, ça amène une certaine mollesse.
Mais je ne voudrais pas qu'on pense à François Hollande quand je dis synthèse, parce que c'est un mot
c'est
qui est ramené. Excusez-moi, je ne voulais pas faire référence à François Hollande. Je trouve que c'est très bien, hein, mais la synthèse, ça existait avant François Hollande et ça veut aussi dire autre chose. Donc, évidemment, il faut quoi? De la clarification. Il faut essayer d'être clair. Il ne faut pas essayer de savoir est-ce qu'on va mettre un peu plus de ci, un peu plus de ça. Il faut savoir qui on est. On va pas faire un congrès en 6 mois. Dans 6 mois, on n'aura pas refait la ligne du Parti Socialiste. Ça fait 30 ans qu'on travaille
pas.
C'est
au mois de février, le congrès. Hein.
Il était repoussé.
Il y a les assises.
C'est
en mars, je crois. Les assises le 30 septembre,
Octobre, c'est dans 6 mois. En 6 mois, on n'aura pas le temps de faire ça. On ne le fait pas en 30 ans, Rafi Amal. On ne le fera pas en 6 mois. Donc, dans ce congrès, il faut sortir le moins mal possible. Il faut essayer de sortir avec une ligne cohérente sur un. Comment est-ce qu'on s'oppose à Emmanuel Macron? Comment est-ce qu'on est capable de faire passer la rampe de ce qu'on raconte? De qui sommes-nous? Qu'est-ce que ça veut dire être socialiste aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire accompagner le marché et accompagner la mondialisation, ce qu'on fait depuis 30 ans? Ou est-ce que ça veut dire repenser le monde tel qu'il vient? C'est-à-dire ce qu'a proposé Benoît, les questions du revenu universel, la question de la relation à la croissance. Voilà. Est-ce que la croissance indéfinie? Est-ce que le productivisme indéfini? Est-ce que l'industrialisation de la société, c'est notre avenir? Je suis persuadé que ça ne l'est pas. Je suis persuadé qu'on est dans autre chose et qu'on doit passer dans quelque chose d'autre. Bien sûr que c'est une révolution pour le Parti Socialiste de faire ça, puisque ça fait 30 ans qu'on fait autre chose. Mais c'est ça ou le mur, c'est ça ou la fin. Je ne crois pas à la fin.
Vous citez beaucoup Benoît Hamon, mais vos amis socialistes, vous êtes toujours au Parti Socialiste avec eux, l'ont pratiquement tous lâché en race campagne pendant sa campagne.
C'est bien dommage.
Et lui-même a décidé de fonder un mouvement, oui. M17-17, et n'est plus socialiste. Alors, il n'appelle pas les gens à quitter le Parti Socialiste, c'est pas son discours.
Bien sûr qu'il est socialiste.
Mais il n'y est plus.
Même Mélenchon est socialiste. Oui, Benoît Hamon peut être encore.
Il a plus sa carte. Parti Socialiste, mais personne n'a sa carte. Non.
Pourquoi
vous restez-vous dans ce parti aux côtés de gens qui continuent à dire que le problème,
mais parce
le
que
bilan,
le combat
c'est,
n'est
c'est,
jamais
c'est
terminé.
La faute à Hamon s'il y a des problèmes financiers, la campagne,
oui,
etc.
Oui, mais parce que le combat n'est jamais terminé. Et ceux qui mènent ces combats, eux, d'arrière-garde, de savoir est-ce que c'est la faute de Hamon, est-ce que c'est la faute de Pierre, de Paul, de Jacques, mais on voit bien où ils nous ont menés, ces gens-là. La réalité, c'est que l'histoire continue. Et on va dans le sens de l'histoire. Et ces gens qui sont d'une génération certaine et qui sont d'un habitus politique certain sont déjà dans le monde du passé, sont déjà dans le monde du crypto-socialisme, sont déjà fossilisés par l'histoire. Donc j'ai pas de doute. Je comprends que Benoît, par amertume, par acrimonie, n'est plus supporté de rester dans un parti qu'il considère comme étant un parti qui l'a trahi, parce que c'est vrai qu'il y a des socialistes qui n'ont pas été à la hauteur, parce qu'il y a des socialistes qui nous ont fait honte pendant cette élection. Il y a des socialistes à Paris, à Marseille ou ailleurs qui nous ont fait honte, qui m'ont fait honte parce qu'ils ont été indignes d'être socialistes, parce qu'ils se sont montrés indignes d'être ce qu'ils sont et de revendiquer ce qu'ils sont, leur appartenance au Parti Socialiste, sous prétexte que leurs amis auraient perdu une primaire ou sous prétexte qu'ils n'auraient pas conservé le pouvoir, parce que derrière tout ça, il y a la conquête du pouvoir ou la conservation du pouvoir. Ces gens-là ont massacré Benoît. Massacré Benoît, parce qu'ils ont considéré qu'il amenait quelque chose de nouveau et de trop frais. Ces gens-là sont la honte du Parti Socialiste. Mais moi, je regrette que Benoît soit parti, parce que j'aurais aimé que Benoît reste pour qu'on puisse les combattre. Parce que ce combat, on va le mener et qu'on aurait pu le gagner. Et que c'est jamais la fin de l'histoire. Et que même si on perd cette fois-ci, on gagnera la fois d'après.
Alors, Benoît Payan, les partis sont résilients. Peut-être que le Parti Socialiste n'est pas encore mort, qu'il va renaître. Vous nous avez donné quelques pistes sur les bases de cette future renaissance. Néanmoins, il y a une page qui se tourne. Le 10 de la rue Solferino va disparaître. Est-ce qu'avec lui, certaines pratiques, certaines personnes vont également prendre le large?
Je ne sais pas si on peut faire une corrélation entre les choses meubles et les choses immeubles.
Certains habitaient les
endroits,
murs. Certains habitaient les murs.
Sûrement. Et je pense que certains se sont même confondus avec les murs. Oui. Mais oui, il est probable que cette transition marque aussi une nouvelle étape. Le Parti Socialiste à Épinay, il était à la cité Malesherbes, et puis ensuite on est allé à Solferino, et puis c'est aussi le sens de l'histoire. Est-ce qu'on doit être nostalgique d'une époque? Certainement, moi j'ai été très jeune, je suis allé à Solferino, et ça vous marque. Pour autant, on ne doit pas être nostalgique de biens immobiliers. C'est un nouveau départ, tant mieux. La question va se poser ici pour Marseille, la question va se poser pour le local de Montgrand. Eh bien écoutez, si on le vend, tant mieux, on ira dans des endroits plus petits, à taille humaine, pour se reconstruire. Il ne faut pas être nostalgique
de tout ça. Il y a
de nouveau
pour Montgrand, local marseillais, parce qu'on a annoncé la vente, démenti.
C'est le National qui possède Montgrand,
alors,
c'est ça?
Alors, je crois que c'est 50-50, je ne connais pas le montage exact de l'immobilier dans cette affaire. Mais
là aussi, c'est statu quo, synthèse, pour l'instant, ni vente, ni...
J'en sais rien, il y aura un congrès, c'est ça? Donc, on fera un congrès pour savoir si on le vend. Mais moi, il faut le vendre, parce que ça coûte beaucoup d'argent, parce que c'est bien trop grand, et parce qu'il faut, c'est un nouveau départ, honnêtement, dans ces murs. Voilà, il y a des histoires, il y a des choses bien qui se sont passées, on a gagné, on a perdu, et puis il y a des choses moins bien. Il faut essayer de se détacher des oripeaux de l'histoire. L'histoire, je la prends telle qu'elle est. Je ne peux pas déchirer le passé, on ne peut pas occulter le passé, on ne peut pas dire que ça n'a pas existé. Mais il faut être capable de penser l'avenir et de s'y préparer. Montgrand, ça a été une histoire, ça a été quelque chose de formidable, ça a été des conquêtes absolument formidables, mais aujourd'hui, c'est déjà du passé, et il faut passer à autre chose, quelque chose qui soit plus accessible, plus petit, plus sympa, d'un truc où on puisse rebondir et repartir.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous pouvez affirmer en tout cas que le social-libéralisme s'est terminé, que...
Moi, je l'espère, mais je ne peux pas l'affirmer. Moi, le social-libéralisme, qui est en réalité un antagonisme absolu, le libéralisme sociétal, ça peut exister, le libéralisme économique et le social, ça n'existe pas, c'est-à-dire que ça se confronte, ça se percute et ça explose. Le social-libéralisme, c'est l'effondrement du PASOK, du Parti Socialiste, c'est l'effondrement du PSOE, c'est l'effondrement des social-démocraties quand elles ne savent plus qui elles sont et quand elles ne se confrontent pas au pouvoir. Et en tout cas avec intelligence.
Et le congrès du mois de février, vous nous dites que c'est un congrès pour rien, quasiment,
non,
parce que vous n'aurez pas le temps de travailler ?
C'est pas un congrès de ligne, c'est un congrès où on doit définir qui on est par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. On n'arrivera pas à se projeter sur les 20 ans,
comme disait Michel Garreau tout à l'heure, ça foisonne, la gauche nouvelle à l'Assemblée nationale,
oui.
La nouvelle gauche, il y a beaucoup de... d'ici février...
Des initiatives.
Et je rappelle qu'après février, il y a 2018 les européennes et surtout 2020-21 avec les régionales et départementales, tout ça. Le logiciel idéologique sera nettoyé à ce moment-là, sera calé?
Je ne sais pas si le logiciel idéologique sera nettoyé. On n'a pas réussi en 30 ans à le faire parce qu'on a eu cette espèce de fainéantise, comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler, en paraphrasant Macron. Je sais simplement qu'on doit clarifier la situation vis-à-vis d'Emmanuel Macron et vis-à-vis de ce pouvoir macroniste d'une 5e République à bout de souffle. On doit savoir ce qu'on va faire avec les institutions. Est-ce qu'on est toujours en phase avec la 5e République? Je ne le crois pas. 2, est-ce que la croissance indéfinie, l'industrialisme et la croissance économique sont les seuls horizons du socialisme? Je ne le crois pas. Donc ce sont des questions comme ça qu'on va devoir amener dans les apports de doctrine du Parti Socialiste. Excusez-moi d'employer ces barbarismes, mais c'est comme ça qu'on va avancer. C'est comme ça qu'on va mettre pierre après pierre la construction d'un nouvel édifice. D'abord, dans un premier temps, on se cale sur les institutions, on sait qui on est vis-à-vis d'Emmanuel Macron, et ensuite on aura du temps. Il faut monter les marches les unes après les autres, affirme.
L'humilité dans la démarche, le 10 octobre, vous serez à côté des fonctionnaires, vous allez retrouver en quelque sorte des fonctionnaires qui vous ont un peu tourné le dos?
Je crois que c'est symptomatique ce que vous dites là. C'est-à-dire que quand on voit à quel point les fonctionnaires qui ont été... Et qui ont accompagné le mouvement socialiste, comme le mouvement socialiste a accompagné la protection des fonctionnaires. Quand on voit à quel point il y a eu une césure entre les agents de la fonction publique, il faut rappeler que la fonction publique, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Quand on voit à quel point on s'est coupé d'eux, c'est que ça en dit long du chemin qui nous reste à faire, et ça en dit long de ce qu'il ne faut plus faire. Donc évidemment... que si on peut renouer avec beaucoup d'intelligence, sur le fond d'ailleurs, avec un discours qui va dans le sens de l'histoire, évidemment, moi j'accompagnerai ça.
Alors on va se rapprocher de Marseille, hein, des Bouches-du-Rhône, par l'échelon régional, on va y aller par étapes. Un bilan, on rappelle, hein, plus un seul socialiste donc, au conseil régional.
Ça c'est parce qu'on s'est retiré.
Oui, c'est vrai.
C'est pour, pour éviter le Front National.
De fait, plus un seul socialiste.
Mais c'est bien de le dire.
12 élus, pourquoi autrefois, 12 députés autrefois dans la région PACA socialiste, aujourd'hui zéro. Voilà.
Ça c'est parce qu'on n'a pas été bon, ça c'est autre chose.
D'accord. Alors,
c'est
par
pas
contre,
parce qu'on s'est retiré, mais quelque part le socialisme s'est retiré d'ailleurs. Hein.
Oui, alors justement une question là-dessus, parce qu'au Ravi on s'est un petit peu amusé, on appelait ça la vraie fausse disparition du rosé, mais si on regarde les élus en marche de PACA, les 24
élus... Non mais ça
c'est
du blanc, c'est pas du rosé ça.
Il se trouve que
certain nombre d'entre
eux...
Clair, hein.
Sont vos anciens camarades. Christophe Castaner est devenu presque une rockstar aujourd'hui.
C'est vrai, ça lui va bien, les Santiago et la guitare électrique.
Au régional, Cécile Muscouté, par exemple, qui était la première fédérale.
Une forme de rockstar aussi.
Quasiment. Là, c'est dans le Var, elle était à votre place il n'y a pas si longtemps que ça, et elle était socialiste.
Elle a même été communiste, Cécile.
Effectivement, dans sa jeunesse. Vous les croisez
c'est
encore, ces anciens
c'est une
camarades.
Forme de progression.
Eux vous désignent comme des archaïques, finalement, oui. des gens du passé.
Non, je sais pas s'il dit ça, après tout, après on peut manquer d'élégance, moi j'en veux pas aux gens qui ne savent pas manier le verbe ou qui le manient avec beaucoup peu de sympathie. Je veux pas les désigner, j'aurais pas l'outrecuidance de dire ils sont ci ou ils sont ça. Moi je pense qu'ils se sont pervertis, qu'ils se sont perdus. Quand on a été socialiste, aller accompagner le gouvernement d'Emmanuel Macron en considérant qu'on est moderne, c'est au mieux une forme de dispersion, au pire une forme de trahison.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatche, le Ravi, on parle du socialisme, des socialistes, avec Benoît Payan aujourd'hui. Michel Guéraud.
Alors nous voilà à Marseille, et à Marseille il n'y a plus de députés socialistes. Effectivement, il y a une sénatrice, Samia Ghali, toujours, qui a quelques difficultés en ce moment. Enfin, il y a eu des perquisitions à son domicile. Ça, c'est le vieil héritage,
On a le temps d'en parler ?
Oui, allez-y, on vous arrêtera si c'est trop long.
Bon, je vais essayer de pas être trop long, mais je vais essayer de développer ma pensée parce que c'est une actualité qui est très chaude.
On va pas faire l'émission là-dessus.
On peut pas y répondre, mais vous allez voir où je veux venir sur cette question-là parce que ça me paraît important.
Pour les auditeurs, les enquêteurs du Parquet National Financier, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte sur détournement de fonds publics et enrichissement personnel, sont allés à son domicile privé.
Perquisitionnés à son domicile.
Moi, personnellement, je suis... Et ça fait partie de mon engagement politique, et ça a été un des moteurs de mon engagement politique. Je suis très attaché à l'état de droit. En République, l'état de droit, ça veut dire beaucoup de choses. Et ça a du sens. Et on sait que la période qu'on vient de traverser ces dernières années a très mal mené l'état de droit. Mais c'était peut-être nécessaire. La période des attentats nous a amené à créer et à mettre en place l'état d'urgence. Qui est une forme de
vous faites
négation,
un long détour,
qui est une forme.
Là.
Mais vous allez voir où je veux en venir. Mais vous me dites qu'on a du temps. Donc moi, je veux bien. Si vous voulez, on fait du tac au tac et on fait comme si on était sur BFM
Répondez
TV.
Répondez sur Samia Ghali, s'il vous plaît.
Et qu'on fait comme si on était sur BFM TV. Vous faites d'ailleurs très bien le présentateur de BFM TV. Mais donc je vais vous répondre. Je crois que l'état de droit ne peut supporter beaucoup d'entraves. Et c'est pour ça que l'histoire de l'état d'urgence doit très vite s'arrêter, à mon avis, pour qu'on retrouve ce qu'est l'état de droit. Dans l'état de droit, il y a quelque chose qui s'appelle la présomption d'innocence, et il me paraît nécessaire, voire même obligatoire, sinon c'est qu'on se raconte des histoires, de le respecter. Quant à l'affaire de Samia Ghali, quant à ce que je sais, évidemment, quant à ce que je sais, avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que je crois à ça, c'est-à-dire on ne se raconte pas d'histoire. C'est les socialistes qui ont inventé la présomption d'innocence parce que justement ça permet aux plus faibles d'éviter la vindicte populaire. Je ne sais pas si Samia Ghali, elle fait partie des plus faibles. Je pense que comme les autres, parce que c'est ça l'état de droit, elle y a droit. Il y a une enquête préliminaire en cours. On a vu dans la Provence, on a vu dans les médias qu'il y avait eu des perquisitions à son domicile. Elle a répondu, je crois, avec clarté à ce qui se passait. Très bien. Donc, les magistrats vont continuer leur enquête, la police va continuer son enquête, et puis il y aura des réponses qui vont être amenées par les magistrats enquêteurs et par la police. Et en fonction de ces réponses, une enquête va continuer où va s'arrêter, au moment où on parle, au moment de l'enquête préliminaire, vous voudriez qu'on fasse des commentaires, quoi? Juridique, judiciaire ou politique? C'est très compliqué.
Non, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Mais qu'est-ce que j'en pense? Je viens de vous répondre quelque chose de très clair. Vous, qu'est-ce que j'en pense de quoi? De l'enquête? Qu'est-ce que je pense de la présomption d'innocence?
Non, mais que beaucoup d'élus socialistes en subissent soit une perquisition, soit une garde à vue? Ici, à Marseille, c'est une singularité.
Une perquisition, c'est une chose. Une garde à vue, c'est une chose. Oui. Et une condamnation, c'en est une autre. Rafi Amal, et vous n'êtes pas sans le savoir.
Enfin, tous les citoyens lambda n'ont pas de perquisition, n'ont pas de garde à vue, n'ont pas de convocation chez la police. Vous êtes d'accord là-dessus, quand même?
Et c'est très bien, même si ça
alors
existe aussi.
Alors pourquoi est-ce que c'est une singularité plus ou moins marseillaise?
Ça veut dire que la justice travaille bien. Ouais. Voilà. Ça veut dire que la justice fait son travail. Très bien. Et donc, on va la laisser faire son travail, parce que ni vous ni moi, on est capable de savoir exactement ce qu'il y a dans l'enquête. Et si demain, elle devait être condamnée, et vous et moi, on pourrait faire des commentaires
alors,
politiques.
Alors, d'accord.
Parce que
Benoît
sur les
Payan,
gens condamnés, on peut faire des commentaires politiques.
Benoît Payan, justement, il y a un phénomène politique, vous ne pouvez pas l'ignorer, vous êtes acteur de ce monde politique marseillais, c'est que le Parti Socialiste a quand même beaucoup de casseroles marseillais sur le dos. Sylvie Andrieux, ancienne députée avec un bracelet électronique, voilà, donc condamnée. Jean-Noël Guérini, pas condamné, mais mis en examen.
Et on
va s'arrêter là.
Mais voilà.
Dans votre travail de refondation.
Ce sont des choses différentes.
Il y a un effet d'accumulation. Est-ce qu'on est d'accord?
Non, mais où je suis clair et je dis la vérité et je fais la différence entre quelqu'un qui est condamné et qui n'est pas condamné, ou je fais du populisme et je mets tout le monde dans le même sac.
Oublions les cas particuliers.
Écoutez-moi.
Mais
écoutez-moi,
les affaires. Est-ce que les affaires, c'est un boulet pour
c'est
qui,
pas un boulet,
pour qui
c'est insupportable.
Veut aujourd'hui c'est rénover le socialisme à Marseille.
C'est insupportable. Et le fait de dénoncer les affaires, ça m'a coûté d'avoir des candidats de la force du 13 contre moi, parce que je n'ai pas mis un genou à terre devant Jean-Noël Guérini en disant que je voulais qu'il s'en aille de la présidence du Conseil général parce que sa situation politique, personnel et judiciaire ne pouvait plus le conduire à être président du Conseil général. Parce que justement, ça ne peut plus continuer comme ça. Mais encore une fois, essayer de mêler les affaires les unes aux autres et de dire que la perquisition, c'est la condamnation, c'est très compliqué. Si je fais ça, je fais du populisme. Ce sont deux choses différentes. Pour autant, vous posez une question qui est plus large, et je la comprends. Sauf que dans cette actualité, c'est compliqué de la commenter. Pour autant, En effet, le Parti Socialiste, ici, on le voit bien, a subi tellement de turpitudes, une histoire tellement chamboulée. Je vous disais qu'il faut vendre mon grand parce que, en arrière-plan, il y avait tout ça aussi. Il y a cette histoire qui est très lourde à porter. Enfin, je ne me sens concerné ni de près ni de loin par ça. Tout ça, c'est pas qu'il faut le mettre de côté, c'est que non seulement il faut le combattre, mais en plus il faut le changer. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ça m'a coûté, ça pouvait me coûter ma victoire au Conseil départemental. Tant pis pour moi, c'était comme ça. Je préférais perdre, avoir un candidat de Guérini face à moi et continuer à dire que je voulais le battre au Conseil Général, que comme mes petits camarades, bien tranquilles au chaud, en disant « Jean-Noël Guérini, on t'aime beaucoup, ne nous mets pas de candidat et on veut que tu sois président du Conseil Général. » Dans le silence le plus absolu de certains médias d'ailleurs. Le fait que moi j'ai pris un candidat de la force du 13 parce que j'ai dit qu'il fallait le combattre. Mais c'est pas grave. J'ai pas fait ça pour en avoir une gloriole. Et j'ai failli perdre. Non. Je cherchais rien d'autre que de dire voilà comment je suis, voilà comment j'ai envie de me présenter. Donc je sais tout ça. Mais vous ne me ferez pas dire que, et encore moins, ne plus être sûr de mes convictions sur ce que doit être l'état de droit. Voilà. Et je fais des différences.
Donc le reste, c'est du populisme.
Non.
Et les gens ont traduit ça par dégagisme, en gros, puisque comme l'a dit Michel Guéraud de manière assez cruelle, vous n'avez plus aucun député, vous n'avez plus de conseillers régionaux. Et comme l'a dit Mélenchon, vous êtes quasiment en voie de disparition.
Vous pensez que vous liez la disparition
des socialistes
de la social-démocratie
locaux
en Europe?
Non, non, je parle des socialistes locaux ici, à Marseille et dans les
Bouches-du-Rhône. Ailleurs en France, ce que vous dites, vous avez remarqué qu'on n'était pas un pays ni une île, Marseille. Donc on subit à Marseille ce que subissent les socialistes à Rome, au fin fond de la Grèce, au fin fond de l'Espagne ou partout ailleurs. Bien évidemment, ici, quand on y rajoute, excusez-moi, mais vous le savez aussi bien que moi, quand on rajoute un paysage local insupportable, quand on rajoute un paysage local, une famille politique qui a plus brillé par ses turpitudes que par son intelligence collective, qui a plus mis en avant des gens qui étaient incapables de porter une ligne politique et qui ont conduit le Parti Socialiste dans l'abîme, bien évidemment, ça fait un combo catastrophique. Bien évidemment que vous avez raison, mais essayer de ramener la disparition des socialistes locaux à leur propre turpitude, c'est trop réduire le champ. Maintenant, ce travail de transformation de ce que doit être l'appareil socialiste, moi je veux le mener. C'est-à-dire que il ne pourra plus y avoir de socialistes liés de près ou de loin à des turpitudes qui vont les conduire à des condamnations parce que ça suffit. On peut plus faire de la politique comme ça. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de malsain à essayer de s'accrocher au pouvoir en continuant ce genre de magouille. C'est insupportable.
Alors passons à un autre chapitre que celui des affaires, mais au plan local, Bouches-du-Rhône, Parti Socialiste, Jean-David Ciot, et là on a un premier fédéral qui n'a pas été ammoniste pour le moins, qui a refusé de faire campagne pour le candidat qui avait été désigné par la primaire, et qui est aujourd'hui votre premier fédéral. Alors, est-ce que ça aussi c'est surmontable pour reconstruire quelque chose à l'échelle
mais
locale?
Mais non, c'est pas surmontable, Jean-David Ciot, il faut qu'il s'en aille. Ça n'est pas... Comment vous dire? Vous l'avez vu, j'essaie d'être un garçon raisonnable, c'est-à-dire de mettre mes pas les uns après les autres, de monter les marches les unes après les autres. Après,
Jean
David Ciot, qui
dirige toujours la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône.
Vous vous rendez compte à quel point on est dans le trou quand
et
on sait que Jean David Ciot...
plus ou moins ouvertement Macron aux dernières présidentielles.
Complètement ouvertement. Et qui a fait la guerre aux candidats socialistes ouvertement. Jean David Ciot qui se présente comme socialiste, qui est député socialiste sortant, qui organise la primaire dans les Bouches-du-Rhône. Lui-même, il organise la primaire dans les Bouches-du-Rhône, voit le résultat de la primaire et dit « Ah non, mais moi, ça ne me convient pas, ça. Mais moi, je ne suis pas pour Hamon, Hamon est trop à gauche, il ne m'intéresse pas, moi, j'étais pour Valls. Alors là, si les choses sont claires, moi, je ne vais pas soutenir Hamon. » Mais on est dans quel monde? On marche sur la tête. C'est-à-dire que tu organises une primaire et tu n'en reconnais pas le résultat. En réalité, ça te pose un vrai souci vis-à-vis de ta notion de ton rapport à la démocratie. Mais au-delà de ça, il est le chef des socialistes.
C'était à lui,
à ce moment-là. Enfin, moi, je ne le reconnais plus trop comme mon chef depuis longtemps, pour tout vous dire. Hein. Donc,
pourtant,
j'essaie d'être indépendant
de ça. C'est lui qui prépare le congrès de refondation.
Mais c'est pour vous dire à quel point le travail de refondation va être compliqué. Mais Jean-David Ciot, entre vous et moi, Jean-David Ciot, c'est déjà de l'histoire ancienne. C'est terminé. Il ne pourra plus représenter le Parti Socialiste, même s'il s'y accroche, même s'il reste des stigmates.
Vous avez beaucoup d'écho quand vous faites cette proposition. C'est un vœu ou c'est une réalité?
C'est un vœu et je pense que c'est une réalité.
Vous pensez que vous êtes majoritaire à espérer ça?
Mais je suis sûr qu'il y a... vous savez, les militants socialistes qui restent, pour la plupart d'entre eux, ils sont tétanisés par le fait qu'on ne soit pas capable de se tourner vers l'avenir. Les militants socialistes de conviction... qui se sentent socialistes, qui sont les héritiers de ce qui s'est passé ces dernières décennies, ou qui se disent ou qui se revendiquent de l'héritage de Jean Jaurès, vous croyez qu'ils ont envie de soutenir Jean-David Ciot? Vous croyez qu'ils ont envie de soutenir des gens qui ont soutenu Macron et qui ont fusillé Benoît Hamon? Vous croyez qu'ils ont envie de se sentir du social-libéralisme ou du libéralisme de droite comme Emmanuel Macron? Mais même s'il y en a, d'abord, c'est plus leur place, le Parti Socialiste. D'ailleurs, je les invite à sortir du Parti Socialiste et d'aller courir l'aventure chez La République En Marche. Mais pour le peu qu'il en reste, on leur demande au moins de ne pas trop s'exprimer. Pour le reste, il y a des militants socialistes de conviction.
Attention, vous parlez comme un insoumis.
Ben, l'insoumission, c'est quelque chose de bien. J'ai bien d'être insoumis à un quelconque pouvoir, mais j'ai pas envie de me soumettre à quoi que ce soit.
Je le fais en forme de blague, parlons de Mélenchon, parce qu'on en a parlé sur le plan national, mais il est de fait, même s'il n'arrête pas de dire « je n'ai pas d'ambition locale, je suis député marseillais, certes, mais je mène une bataille nationale », il n'empêche, il est là. Il y a eu une dynamique électorale pour les insoumis dans la ville de Marseille. Et il a dit qu'il était venu remplacer le Parti Socialiste, pas ici, mais à l'échelle nationale.
Ça pourrait être rigolo.
Qu'est-ce que vous en pensez de ce Mélenchon à Marseille, aux côtés duquel, par exemple, vous apparaissez? On vous a vu à la Corderie, ouais, en train de prendre la parole publiquement. C'est un partenaire pour vous dans les réflexions et la nécessité de reconstruire la gauche? C'est
mais
un partenaire
si, mais bien évidemment.
Lui, ses troupes?
Honnêtement, il faut essayer de sortir de l'histoire du Parti Socialiste, les Insoumis, c'est Mélenchon, c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques. La politique, elle souffre de ça, en fait. La politique, elle souffre du fait qu'il n'y ait pas de projet, qu'il n'y ait pas d'intelligence, qu'il n'y ait rien de collectif, qu'on ne réfléchisse pas à cette ville. Ouais, vous avez vu les retards de cette ville.
Attendez, la politique, c'est pas non plus tout rose. Mélenchon, dans Marianne, grosse interview, il dit à propos de lui et de Macron, on a un point commun, c'est le dégagisme. Et lui, il pensait plutôt à vous, hein, quand il parlait de dégagisme.
Oui, il n'a pas réussi pour l'instant à me dégager, et je suis pas sûr, on verra qui dégage l'autre à la fin. Donc la question, se pose pas comme ça. Et
pour un partenaire, ça démarre très mal quand même.
Mais parce que je réponds à Rafi Amal, je réponds pas à Jean-Luc Mélenchon. Et justement, la question, elle se fait sur les projets. On voit bien qu'il y a des projets sur lesquels on sera d'accord. On voit bien qu'il y a des projets municipaux sur lesquels on a le combat à mener ensemble. Toutes les questions environnementales, les questions sociales, les questions sociétales, les questions de patrimoine qui vous sont chères, Rafi Amal, sont des questions sur lesquelles le Parti Socialiste, les socialistes, pas le Parti Socialiste, les socialistes, les insoumis, les verts, les communistes, peuvent avoir des réponses communes. Face à une droite municipale qui a fait de la ville un espèce de sanctuaire pour les promoteurs, oui, en effet, quand on va mener le combat avec Mélenchon et avec d'autres et qu'on arrive à le mener, alors oui, il peut y avoir des résultats. C'est comme ça qu'il faut voir les choses.
On a parlé à la Provence, toujours Mélenchon, il y a quelques jours, quand on lui pose la question de l'alliance locale avec les socialistes, avec vous, il dit pourquoi faire, ils n'ont pas encore été décontaminés, ils en sont encore à croire qu'ils peuvent m'éliminer du paysage. Enfin, c'est ça le ton pour l'instant.
Mais oui, bah écoutez, il a le ton qu'il a.
Vous êtes optimiste, vous pensez
Absolument.
Pouvoir changer le cap avec ce personnage.
Je pense qu'il
personnage.
Est très intelligent surtout.
Il participerait à sa manifestation ?
Quand ça ?
À Marseille
Non, c'est à Paris, là.
À Paris
Ah, le 23 ?
Oui.
Non.
Non ? Pourquoi vous pensez, comme Macron, que la démocratie, c'est pas la rue, la démocratie, c'est le vote ?
Non.
Uniquement, et toutes les manifestations sont à...
Non.
Condamner ?
Non.
Benoît Hamon, il sera ?
Oui.
Encore un différent avec votre ancien candidat ?
Non.
Ah ben si.
Non, c'est qu'il est à Paris et moi non. Voilà.
Ah d'accord.
C'est juste une question de distance.
Exactement. Vous savez, des fois la distance fait beaucoup de mal.
Hein. Oui. L'émission avance, il faut quand même qu'on parle de certains dossiers et puis aussi de vous êtes donc l'opposant, le premier opposant de Jean-Claude Gaudin. Jean-Claude Gaudin qui annonce, c'est logique, mais qui confirme, hein, évidemment, il ne sera pas candidat à sa succession. Et il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de démentis, il y a des poulains un jour, il y a des poulains de...
C'est joli,
toujours.
Poulain. C'est presque
des
plus joli que
dauphins. C'est vrai, poulains,
dauphins. Ça, c'est chaud,
voilà,
les dauphins.
Il y a tout un tas d'animaux, un bestiaire là, à mettre en scène. Vous regardez comment... parce que finalement, la droite locale ne se porte pas si bien que ça, pas plus que le Parti Socialiste local. Ils sont au pouvoir tout de même. Ils ont le département.
Ah, ils ont tous les pouvoirs. Ils ont le département, ils ont la métropole, ils ont la région, ils ont la ville de Marseille. Et on voit bien ce qu'ils en font. Ils sont là depuis 20 ans. Ils sortiront de ce mandat avec 25 ans de pouvoir absolu sur la ville de Marseille. Jean-Claude Gaudin avec 55 ans de présence au conseil municipal, ce qui est absolument extraordinaire. J'imagine que dans la 5e République et qu'en France, c'est le dernier endroit dans une grande ville où quelqu'un a 55 ans de présence dans un conseil municipal. La droite va avoir ses propres soucis, moi je la laisse à ses propres problèmes. Il faut essayer de pas s'occuper de ce qui va se passer, elle va avoir un bilan à porter qui est très compliqué. On est dans une ville extrêmement pauvre, on a des quartiers ici, notamment le 3e arrondissement qui est un des quartiers les plus pauvres de France, les plus pauvres d'Europe. On est dans la ville la plus embouteillée de France. On est dans la ville la plus polluée de France. On est dans une ville où les services publics sont catastrophiques. On est dans une ville où la pression fiscale est extrêmement élevée. On est la ville où on paie le plus d'impôts. Dans la ville dans sa strate, c'est la ville où on paie le plus d'impôts. Quand on voit les services publics.
Oui, mais en 2024, il y aura les gens.
Oui, extraordinaire. Bien sûr. On sera même capitale européenne des chichis, il paraît. Donc, on paie des impôts de manière absolument extraordinaire et on fait partir l'argent public, qui est très rare ici, dans des équipements somptuaires. On voit bien que les écoles sont délaissées. On voit bien que les équipements sociaux n'existent pas. On voit bien que les équipements sportifs sont à l'abandon. Et on fait des stades vélodromes c'est un équipement dont l'économie générale c'est 1 milliard d'euros. C'est 15,8 millions d'euros d'argent qui s'en va tous les ans, c'est-à-dire d'argent mobilisable, c'est pas de l'investissement. Hein. C'est, on paye en cash 15,8 millions d'euros tous les ans par an pendant 35 ans. À Arema, à une holding, pour avoir refait le stade Vélodrome. On fait une patinoire olympique dont tout le monde sait parfaitement qu'on est des adeptes du triple loot à Marseille et qu'on est de grands patineurs olympiques. On fait une patinoire olympique à 45 millions d'euros. Et pendant ce temps-là, on a des piscines vides.
Bon,
donc il va falloir
et là, les dauphins de
Gaudin
disent, bah, Payan, il fait du Menucci, c'est-à-dire qu'il voit tout en noir, rien ne va à Marseille.
Mais non, parce que les choses ne peuvent pas se poser aussi abruptement et aussi bêtement que ce que certaines personnes de droite racontent. C'est pas une question de noir ou pas de noir, parce que la ville, elle est ce qu'elle est. La ville, elle est splendide, la ville, elle est magnifique, elle est belle et on peut en faire quelque chose. Il suffit pas de critiquer pour critiquer. Moi, je suis pas là pour critiquer Jean-Claude Gaudin, pour expliquer qu'il fait rien. Bien au contraire, je préférais qu'il fasse rien à la limite, parce qu'il fait. Et parce que la droite, elle fait. Parce que je veux, et tant mieux pour eux, parce que les Marseillais veulent, dommage pour les Marseillais, mais voilà, on est dans une situation où il faut être capable de concevoir que la droite... depuis longtemps, a abandonné l'idée de transformer la ville. C'est quoi la vision de la droite ? À part une vision immobilière et entrepreneuriale de la ville. C'est quoi ? On va aller vers où ? Où est-ce qu'on va développer l'économie des croisières ? On pourra en parler pendant des heures des croisières. Pour moi, j'estime que c'est un développement catastrophique de la ville. Même si c'est bien qu'il y ait des touristes. Je ne veux pas empêcher les touristes de venir dans la ville. La question, il ne s'agit pas de dire on va fermer la ville, on va devenir la Corée du Nord et on va être bien entre nous. Il n'y aura que des adhérents du Parti Socialiste et une économie administrée. C'est la droite voudrait bien faire ce genre de caricature. Or, la réalité, ça n'est pas ça. On voit bien qu'on a une droite bling-bling qui a envie qu'on ait un stade vélodrome, qui a envie de faire des feux d'artifice, Suisse qui a envie qu'il y ait un million et demi de touristes par an. C'est un grand cinéma.
En même temps, Benoît Payon, vous allez vous retrouver avec Jean-Claude Gaudin et la droite pour condamner la suppression des emplois aidés, tous les emplois aidés, les plus qualifiants comme les autres. Donc, il y a quand même une vision un peu commune, non?
Sur les emplois aidés, je suis content de voir que la droite considère que les emplois aidés, c'est important. Ça fait 15 ans qu'ils les combattent. Sauf que quand ils s'aperçoivent de la réalité de la suppression des emplois aidés, la droite s'élève en criant les emplois aidés. J'ai quand même pas noté que la droite libérale marseillaise avait une vision de l'économie qui s'apparente à une vision de l'économie sociale et solidaire. Mais, puisque vous le dites, et tant mieux s'ils viennent sur ces positions, je vois que je commence à gagner la bataille culturelle.
C'est cette habitude prise d'inscrire Marseille dans un calendrier de grands événements, la capitale européenne du sport, le MP 2018 à venir, la suite de MP 2013, les JO maintenant en 2024. Il y a à prendre et à laisser, c'est de l'esbrouf, c'est pour
c'est du bling-bling.
Distraire.
Non, c'est du bling-bling, c'est leur politique.
Ça crée quand même des dynamiques, des opportunités pour Marseille.
Du bling-bling, c'est-à-dire, alors, Marseille Capitale Européenne de la Culture, c'était un vrai label, c'est vraiment quelque chose qui a marché. D'abord parce qu'on a été accompagné par les services de l'État, parce qu'on a été accompagné par l'Europe, c'est un label européen, donc ça a du sens, c'est quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui structure l'économie culturelle d'une ville, l'essor culturel d'une ville, y compris le développement culturel d'une ville. Et on sait ce qu'on est capable de faire passer par la culture, et donc c'est quelque chose qui a apporté. Malheureusement, on voit ce qu'ils en ont fait, c'est-à-dire pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il reste de Marseille, capitale européenne de la culture? Pas grand-chose, et le peu qu'il reste, c'est détruit, il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur le J. Et puis c'est à peu près tout. Parce que le reste, ce sont des labels favouilles. Le label Capitale Européenne du Sport, il n'existe pas. Ils l'ont inventé dans un bureau. C'est un Italien qui vend ça, qui dit « Vous me filez 300 000 euros et je vous vends le label. » Il n'y a pas un euro de fonds européens, il n'y a pas un euro de fonds internationaux, il n'y a pas un euro de fonds national. On dit qu'on est Capitale Européenne du Sport. Qu'est-ce que ça a apporté? On n'a pas rénové un stade. On n'a pas filé un euro à des associations qui s'occupent des gamins dans les clubs. On n'a pas aidé un club sportif à s'en sortir. On ne fait rien. Par contre, on a fait le Red Bull Crash Ice. C'est-à-dire, on a fait descendre des mecs de l'Hôtel Dieu jusque sur le Vieux-Port dans des bobsleighs pour 1 million d'euros de subventions publiques à Red Bull.
Ils vont revenir en février 2018.
Et il a quand même fallu donner de l'argent public à Red Bull, petite société Red Bull, qui fait 3 milliards de chiffre d'affaires. Il a fallu qu'on donne 1 million d'euros d'argent public pour que Red Bull vienne ici.
En même temps, voilà ce qu'on fait. Benoît Payan, il y a un succès populaire. Les gens aiment voir ce genre d'événements, aiment pouvoir voir la ville bouger avec des grands événements aussi.
Mais moi, je ne dis pas qu'il faut tout condamner. Je dis que ça n'est pas la priorité. Et que je pense qu'avant de donner 1 million d'euros à Red Bull, pour faire descendre des mecs du haut de l'Hôtel Dieu jusqu'en bas du Vieux-Port dans des bobsleighs, on peut mettre de l'argent dans des stades qui sont massacrés, dans des piscines où il n'y a pas d'eau, dans des gymnases où il y a les toits massacrés et où il n'y a pas de chauffage. Je crois qu'il faut avoir le sens des priorités. Red Bull, c'est une multinationale qui ne doit pas avoir la priorité.
On l'a compris, les JO 2024, ça ne vous enthousiasme pas. Pourtant, on a vu Renaud Muselier, il était au Pérou d'ailleurs avec la délégation et voyage.
Il est allé voir le Machu Picchu.
Voilà, oui, il était avec la délégation et puis il dit c'est une chance pour Marseille.
Du haut du Machu Picchu, il a dit ça, vous avez un peu d'oxygène.
On la voit, le championnat de les épreuves de voile en 2024 se passeront à Marseille. Il y avait le président Emmanuel Macron à Marseille. Pour
vendredi.
Il était là vendredi, oui.
Donc, pour vous, ça, c'est de la cosmétique aussi. On est loin des problèmes essentiels de Marseille.
Les JO, c'est pas la capitale européenne de la culture, c'est pas la capitale européenne des sports. On peut pas confondre les Jeux Olympiques et la capitale européenne des sports. Les Jeux Olympiques, ça existe, et d'ailleurs, c'est une vraie question. Est-ce qu'on va continuer longtemps comme ça avec cette espèce de sport business? Les Jeux Olympiques, c'est un gouffre financier, ça coûte des milliards d'euros, et je pense que maintenant, ça doit s'arrêter. Et qu'il faut essayer de réfléchir à un sport différent et à une manière de promouvoir le sport qui soit différente, c'est-à-dire les annonceurs, les multinationales et les milliards d'euros dans le sport à un moment donné. Ça doit s'arrêter et je pense que là on est sur un système à bout de souffle. On voit bien d'ailleurs que Paris a obtenu facilement les JO, que Los Angeles les obtiennent facilement et que pour le reste, il n'y a plus de candidats. Donc il y a une vraie question à se poser sur le rapport à ce qu'est le sport. Pour revenir à Marseille, il faut mettre 12 millions d'euros sur la table d'argent public pour refaire la plateforme du Rocazeblanc et pour faire de la voile. Moi, je fais une proposition simple. Quand on met 1 euro dans le sport business, on met 2 euros dans le sport amateur, dans le sport pour tous, dans les équipements et dans les clubs sportifs. Marseille, on est en retard structurel vis-à-vis de ça. Et on voit bien qu'on est incapable de savoir ce qu'on va faire avec la plateforme. On va mettre 12 millions d'euros dans la plateforme sans savoir ce qu'on va en faire. On a à Marseille, On a la plus belle rade du monde, je crois. Avec Los Angeles, on a la plus belle rade du monde. Tous les mecs qui font de la voile vous le diront. Il faut qu'on soit capable de promouvoir ça. Il ne faut pas que la voile, ça reste quelque chose qui soit réservé à des gens qui peuvent se permettre d'avoir des bateaux, qui peuvent se permettre de subventionner tout ça. Il faut justement, dans une ville populaire comme ça, avec une rade comme ça, si on était capable d'inventer quelque chose, de faire venir des voileux, de faire venir des investisseurs autour de ça, si on était capable de réfléchir à un projet, alors les 12 millions d'euros qu'on va mettre là-dedans peuvent servir à quelque chose. Mais là, on fait un one-shot, comme d'habitude. Bling, bling. On fait venir Macron, on inaugure et on dit « Voilà, 12 millions d'euros pour la rade, c'est fantastique. » C'est du pipeau. C'est-à-dire, on va encore brûler de l'argent public sans savoir ce qu'on va en faire.
Et de l'argent public, il y en a de moins en moins, puisqu'il y a la suppression de la taxe d'habitation qui n'aura pas d'impact pour les collectivités, prédit le gouvernement. C'est l'État qui paiera à la place du contribuable local. Bonne chose ou, comme vous dites, comme pour Jean-Claude Gaudin, c'est du pipeau ?
La taxe... Je sais pas, on va voir ce qu'ils vont faire. Hein. Ça, encore une fois, j'attends de voir dans les faits ce que va faire Emmanuel Macron. On voit bien qu'il commence déjà à reculer sur un certain nombre de choses. Qu'à voir ce qui se passe avec la PMA depuis une semaine pour comprendre que les reculs se font les uns après les autres. La taxe d'habitation, c'est un impôt à Marseille qui est particulièrement injuste. Ici, on est dans le 3e arrondissement. Ici, pour le même foyer... Pour la même surface, on paie plus de taxes d'habitation que dans le 7e arrondissement. C'est un truc de fou. C'est un truc... C'est une injustice, mais tu as envie de hurler quand tu vois ces injustices. Quand au conseil municipal, on raconte ça, la droite, elle ouvre des grands yeux en disant « Ah, mais c'est le fruit de l'histoire. » C'est particulièrement injuste. C'est particulièrement inefficace. Ça n'a pas de sens. La taxe d'habitation, tout le monde la paye. Les gens les plus humbles payent la taxe d'habitation. Et ce sont des gens qui habitent dans des quartiers les plus défavorisés qui payent le plus la taxe d'habitation à Marseille.
Vous auriez été plutôt pour une réforme qu'une suppression pure et simple ?
S'il n'y a pas de suppression de la taxe d'habitation, s'il y a une suppression de la taxe d'habitation, on verra. Il ne faut pas non plus qu'on ampute dès demain des collectivités territoriales qui, quand elles fonctionnent bien, sont de vrais boucliers sociaux. Je ne sais pas justement ce que ça donnera à ce moment-là. Mais s'il devait y avoir une réforme, il faut surtout réformer les bases et la carte. Moi, je ne peux pas accepter qu'au Roucas-Blanc paye moins de taxes d'habitation qu'à Saint-Mauran. Enfin, personne ne nous croit en plus quand on dit ça. Les gens disent, mais de quoi ils parlent ? C'est pas possible qu'un T3 à Saint-Mauran coûte plus cher en taxes d'habitation qu'un T3 au Roucas-Blanc. Ben oui, à Marseille, c'est possible.
Alors, on vous a vu aussi mener des batailles patrimoniales. À la Corderie, où il y a une carrière antique menacée de destruction pour construire un nouveau complexe immobilier de luxe. C'est important, ces batailles-là, dans une ville paupérisée comme Marseille, ça a du sens ?
C'est important parce qu'on ne peut pas oublier sa mémoire. C'est un combat où il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire la ville de Marseille. Qu'est-ce qu'on est, nous ? C'est quoi notre histoire ? C'est pas rien. C'est une ville qui se vit comme une cité-état, c'est une ville qui est très vieille, qui a 25 siècles d'histoire, et c'est une ville qui a souvent oublié son passé. On a systématiquement rasé la droite et la gauche d'ailleurs, et particulièrement la gauche parce qu'elle a été longtemps au pouvoir. Elle a rasé son passé.
Gaudin a pratiquement les mêmes mots que Defferre en disant il faut pas arrêter la marche du progrès.
On trouve le tibia de Jules César à chaque fois qu'on creuse. Bon, c'est absolument extraordinaire comme formule. Sauf qu'en réalité, on a massacré, pour faire le collège du Vieux-Port, un théâtre antique qui aurait pu ressembler à Taormine. On a massacré des vestiges archéologiques pour faire un parking au centre-bourse. Et on va massacrer la seule carrière antique à ciel ouvert en centre-ville, en Europe, qui vient d'être découverte. C'est à partir d'ici que les réfugiés, que les immigrés de Fossé venant ici pour survivre ont construit la ville. C'est le premier témoignage de la construction de la ville. Voilà, donc de face à nous, on a des sarcophages, des puits, et le témoignage vivant de la construction de la ville. On sait que les premiers mecs qui sont venus à Marseille sont venus là. Et bien à la place, la mairie de Marseille, elle dit à Vinci, le mieux qu'on ait à faire, c'est de faire un immeuble à 8000 euros le mètre carré. Donc on se pose des questions entre un immeuble à 8000 euros le mètre carré et le premier témoignage de la création de la ville. Donc, et encore une fois, on fait ça dans le silence le plus absolu, en disant, c'est pas très grave, c'est des pierres. On s'en fout des pierres.
Il y aura un quota de logement social ?
Non, il y a un quota de logements en accession à la propriété qui est extrêmement réduit. On voit bien les ambitions de la droite municipale d'ailleurs. Elle n'a jamais envie de faire de peine aux promoteurs. Donc il y a un quota extrêmement réduit. Pour tout vous dire, il y avait une délibération qui amenait, je crois, à 2500 ou 2600 euros le mètre carré pour 10% de logements de l'immeuble. Ils nous ont fait réécrire la délibération. Ils ont fait réécrire, pardon, à la droite, la délibération. Il y a un quota plus petit et un prix plus élevé. Donc, vous voyez, ils ne perdent pas le nord, hein, les promoteurs.
Le BTP, la bétonnière, c'est l'alpha et oméga du gaudinisme.
Vous le dites bien.
Effectivement. Pour vous, vous le voyez comme ça.
Je crois que Jean-Claude Gaudin a une tendance à considérer que les promoteurs ont un rôle particulièrement important à jouer dans la ville. Moi, je ne le pense pas.
En même temps, il y a une crise du logement, ça c'est une réalité.
Il y a 36 000 logements vacants à Marseille. 36 000 logements vacants à Marseille, et on nous fait croire.
Et une liste démesurée de demandes d'HLM.
Vous vous rendez compte donc de la catastrophe. 36 000 logements vacants, des demandes d'HLM, je crois qu'il y a 50 000 demandes de logements HLM en instance, et on continue de construire des logements à 8 000 euros le mètre carré, avec une urbanisation exacerbée, avec la ville la plus polluée de France, avec la ville la plus embouteillée d'Europe, on continue de construire sans réfléchir à la ville.
Certains commentateurs, et on en est au ravi un petit peu, disent que vu un certain nombre de dossiers qu'on vient de lister, vu finalement des difficultés internes à la droite marseillaise, il est presque incompréhensible que cette ville ne soit pas passée à gauche, et que peut-être
quand on la
responsabilité la
gauche,
du Parti Socialiste y est pour beaucoup.
Je ne peux que donner raison à Rafi Amal. Quand on regarde la gauche, il suffit d'être simplement observateur pour comprendre que les électeurs se sont détournés de nous. Pour comprendre qu'on n'a pas montré le visage le plus intéressant, on a été incapable de montrer qu'on changeait, on a été incapable de positionner de l'intelligence, on a été incapable d'arriver avec des projets intelligents, de montrer des équipes renouvelées. Et vous voulez que les Marseillais tombent dans les bras de gens qui ne leur ressemblent pas?
C'est une autocritique, parce que vous êtes quand même...
Enfin, moi, j'ai jamais été dirigeant du parti. Moi, j'ai été élu en 2014, conseiller municipal.
Mais vous êtes en politique à Marseille avec...
Certains vous ont qualifié de jeune apparatchik.
Mais moi, je prends tout. Honnêtement, j'ai pas de soucis, ça me fait pas trembler tout ça. Mais il faut pas imaginer que quand j'étais en seconde, et après en première, un dirigeant du Parti Socialiste dans les Bouches-du-Rhône, quand même.
Vous avez un profil qui...
Je veux bien être précoce.
On va terminer là-dessus peut-être, mais vous avez un profil qui n'est pas à la mode actuellement, parce que vous vivez avec la politique et de la politique, vous n'avez pas d'autre métier, et aujourd'hui, ce qui est tendance, c'est l'élu macroniste, qui vient de la société civile, qui est médecin, ingénieur, etc., et qui fait un peu de la politique comme ça.
Mais si je ne ressemble pas au macroniste, j'en suis bien content. En réalité, quand j'ai été aux élections, je suis donc conseiller municipal, et j'ai été aux élections départementales en 2015. Je savais ce que ça me coûterait d'aller à ces élections, puisque je n'acceptais pas Guérini, et que Guérini m'a dit qu'il me mettrait un candidat si je ne pliais pas le genou. Et donc je suis arrivé en toute humilité devant les électeurs, et je leur ai dit voilà, si je suis élu, je me consacrerai à la politique. J'arrêterai mon métier, je me mettrai en disponibilité ou je démissionnerai, et je ne ferai que de la politique. C'est-à-dire que je ne me mettrai qu'à votre service. C'est-à-dire que le mandat que vous allez me donner, je vais le faire à fond. Je vais me donner à fond. C'était un risque. Parce que, justement, certains peuvent dire que je ne fais que ça. Comme on aurait pu aussi dire, il a gardé son métier, il cumule, il a pas le temps de s'occuper de nous. Donc on est dans une situation schizophrénique.
En même temps, il y a très peu d'élus socialistes qui travaillent à côté. Beaucoup ne font que de la politique.
Des parlementaires, vous parlez là. Mais c'est pas la réalité. Honnêtement, vous prenez le conseil municipal, je crois qu'il doit y avoir 90%, 95% des élus qui travaillent. C'est un choix. Moi, je suis un fils d'ouvrier dont la femme travaille à mi-temps chez Zara, Terrasse du Port, parce que je vis comme ça. Voilà, je suis locataire de mon logement, je ne possède rien, et j'ai fait ce choix-là. Bon, vous voyez, vous me posez la question, c'est pas quelque chose que je mets en avant, donc je vous réponds. J'ai fait le choix d'arrêter de travailler pour me consacrer à mon mandat.
Dominique Payan.
Benoît Payan.
Moi, je pensais...
Vous pensiez à Dominique Tian, peut-être.
Voilà.
Ça lui fera plaisir.
Non, c'est parce que vous êtes fils d'ouvrier, l'ISF.
C'est
tout
pas
ça.
Tout à fait pareil, vous voyez.
Un sacré raccourci dans ma tête. Juste en quelques mots, puisque vous avez
c'est
dit que Jean-David Ciotte, président, toujours actuel président de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône, devait arrêter. Le profil, mais vraiment très rapidement, du idéal pour le futur candidat.
Quelqu'un qui a envie de passer du temps pour ça, justement. C'est-à-dire, on ne peut pas consacrer une heure par semaine à dire je vais être premier secrétaire. Il faut être capable d'avoir du temps, de dégager du temps. Le Parti Socialiste, il est fragile.
Le temps n'est pas la seule qualité
mais
à avoir.
C'est déjà beaucoup.
Je suis sûr que retraité, il pourra la faire.
Mais pourquoi vous pensez
tous les auditeurs pensent à Benoît Payan, là.
Non, je suis candidat.
Non,
j'ai dit que je ne ferai pas de cumul de mandat. Donc
vous lâchez la mairie et allez à la fédération.
Vous avez deux de mandat.
Le cumul de mandat, c'est trois cumuls, déjà. Et ensuite, je suis dans l'opposition. Donc je ne cumule absolument rien. Et je vous fais remarquer, mais vous l'aviez déjà fait, parce que vous êtes un observateur avisé de la vie politique, que quand j'ai été élu président du groupe à la mairie, j'ai démissionné de mes fonctions au conseil départemental pour me conformer à ce que j'avais dit.
Donc vous n'êtes pas candidat, vous ne serez pas candidat à la fédération, même si on vous le propose.
Exactement.
Benoît Payen, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Au mois prochain. Bye.